Madame, monsieur, bonjour, merci d'être resté sur Europe 1. Je vais vous expliquer pourquoi vous avez eu une excellente idée. Figurez-vous que le samedi, sur Europe 1, entre 15 et 16 heures, nous allons vous parler de la France et de ces lieux multiples que vous ne connaissez pas et qui méritent votre attention. Alors, ce sont des lieux culturels, historiques, des lieux parfois propres au divertissement sportif, bref, des sites originaux, parfois insolites même, et dans tous les cas, riches d'histoire. Alors, compte tenu de la situation sanitaire au cours de ces derniers mois, vous connaissez, hélas, vous êtes resté en France, mais je sais que vous souhaiteriez quand même être dépaysé. Eh bien, cette émission est faite pour ça, pour être dépaysé, visiter votre pays, ça serait notre slogan, pourquoi pas. Nous, on en connaît tous les recoins du pays grâce à mon partenaire, mon complice. C'est un homme qui a sillonné le pays depuis des années pour les besoins du Guide du Routard, dont il est d'ailleurs un des rédacteurs. Et alors, à lui tout seul, c'est une encyclopédie du tourisme. Hein, en France, déjà dans son berceau, il avait un sac à dos. C'est vous dire, alors son prénom c'est Gavins et son nom c'est Clemente Ruiz. C'est joli, non? Et alors avec lui, vous aurez tous les descriptifs des sites qu'on va vous proposer et toutes les infos sur ces lieux magiques, c'est-à-dire tarifs, durée de la visite, hébergement, restauration et moyens de se rendre sur place. Ben oui, quand même. Voilà, c'est ça, samedi en France, mais pas seulement, vous allez voir.
Europe 1, 15h-16h,
samedi en France.
William Lémergy.
En plus, chaque semaine dans cette émission, une personnalité connue de vous, viendra vous parler avec passion de la France, de son enfance. Parce que on a tous dans notre cœur, dans notre mémoire, un lieu qui peut être un paysage, une ville, un monument dont on aime raconter les temps joyeux que nous y avons passés. Alors aujourd'hui, vous entendrez les confidences de Pascal Obispo au micro de Daniel Moreau. Je vous dis déjà que ça se passe dans le sud-ouest. Voilà. Dans chaque émission également, quatre sites. Le premier aujourd'hui, c'est un étrange musée en Mayenne. Deuxième site, ensuite en Bretagne, les joyaux d'une architecture, mais totalement oubliée de l'histoire. Pourquoi? On verra. Ensuite en Auvergne, un volcan spectaculaire. Alors lui, il est à ciel ouvert et on peut y pénétrer. Et on terminera avec une expérience unique dans le massif des Vosges. On va vous proposer de vous reconnecter, c'est le mot je crois, avec la nature et de vous balader au-dessus de la forêt. On dirait comment on fait? C'est assez simple, on se balade et puis on peut rester même, y dormir. Voilà, maintenant le premier site, c'est en Mayenne, donc... Alors quand je dis Mayenne, c'est la première question parce que je n'ai pas su y répondre. Gavitz, bonjour, où se situe la Mayenne? C'est bête ce que
bonjour,
je dis.
Bonjour William, bonjour à tous. Bah, très heureux de vous partager ma passion, la France dans toute sa beauté et toute son originalité. La Mayenne, bah, c'est parfait parce qu'on ne la considère pas comme une région touristique a priori et on a tort. Nous sommes dans les Pays de la Loire, William. Habituellement, c'est le département qu'on traverse vite fait pour relier les bords du mer, du Morbihan ou de la Loire-Atlantique. On est précisément aujourd'hui à Caussé-le-Vivien, grosso modo entre Rennes et Le Mans, au sud de Laval.
C'est assez clair, là, je crois. C'est en haut, un peu à gauche, Pays de la Loire.
Exactement.
D'accord ?
Vous avez tout compris.
Près de Laval, à Caussé-le-Vivien, où habitent ça, c'est pas facile à deviner, les Causséens et les Causséennes. Vous avez trouvé... Alors, c'est un site insolite.
Mieux que ça, William. J'ai rencontré l'œuvre d'un homme hors du commun. Ça s'appelle la Maison des Champs, autrement appelé aussi le musée départemental Robert Tatin.
Départemental. Tatin, ça a un rapport avec les sœurs ou rien à voir?
Non, rien à voir. Rien à voir du tout. Juste sur un point, c'est un musée complètement renversant, vous allez voir.
Bien sûr, c'est le randonneur rigolo. qu'est-ce qu'on y trouve concrètement dans ce musée-là?
Eh bien, on y trouve des statues gigantesques. C'est vraiment ça qu'on va prendre en plein dans les yeux quand on va arriver. Ces statues, elles mesurent entre 2,5 et 4,5 mètres de haut. On dirait qu'elles sont comme ça, sorties par magie du sol. Ouais. Elles représentent des grands artistes. Il y a Rodin, il y a Picasso. Il y a aussi un dragon sentinelle. Quand vous allez arriver, vous allez voir, il va vous regarder comme ça, William. Et ensuite, il y a la porte des géants avec les cinq piliers de l'art occidental. Il y a la porte de la lune, il y a la porte du soleil, etc. etc. Toute l'œuvre de ce monsieur se base sur la mythologie.
C'est en dur. Hein,
c'est de la brique.
Alors, mais qui est cet homme? Il vient d'où? Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Il fait des statues? Il fait que ça?
C'est ça.
Qui est ce monsieur? Parce qu'il faut savoir, je dis ça pour ceux qui nous écoutent, c'est que à la fois on va vous décrire le lieu pour que vous ayez envie d'y aller, mais on va vous raconter l'histoire de celui qui l'a bâti, si c'est le cas, ou de celui qui l'entretient. Donc, qui est cet homme ? Je disais, qu'est-ce qu'il fait dans la vie ?
Robert Tatin, c'est un artiste avant tout. Mieux que ça, il dit qu'il est un œuvrier. J'aime bien le mot, œuvrier.
Au lieu de dire ouvrier.
Exactement. D'accord. Il est né le 9 janvier 1902, près de Laval, en Mayenne. Il était dans un milieu modeste, sa mère était catholique pratiquante. Il commence au début, il est peintre en bâtiment. Il va monter à Paris en 1918.
Quand même, il a un lien avec l'art. Il est peintre.
Il est peintre.
Peintre en bâtiment, d'accord, mais enfin, comment il sait peindre, quoi ?
Exact. C'est là où il va commencer à devenir peintre décorateur et il va faire les beaux-arts en parallèle. Donc, on voit qu'il y a le côté pratique et il y a artistique qui se développe. Il va aussi se passionner pour la charpenterie et il va commencer à voyager. Il va partir en Europe, il va aller en Afrique, il va aller à New York. Et pendant tout ce temps-là, il va noter tout ce qu'il va voir pendant ses voyages.
Oui, il faut signaler ça. C'est un homme qui est extrêmement curieux.
C'est ça.
Et il va aller partout dans le monde et pourquoi faire ? Mais pour l'instant, là, il n'a encore rien créé.
Non, il note tout. Et c'est après la Seconde Guerre mondiale, avec les horreurs de la guerre, que va lui prendre l'envie de se lancer dans cette vie artistique trépidante de l'après-guerre. Pour lui, l'art sauve des atrocités de l'homme, dit-il. Et c'est là où il va fréquenter André Breton, Jean Cocteau, Bernard Dubuffet, excusez du peu.
Ah oui, c'est ça qui est bizarre, parce que pour l'instant, il n'est pas grand-chose. Et il connaît des géants de la littérature ou de l'art.
C'est ça qui me fascine chez ce monsieur.
Il est malin. Ouais. Il s'installe ou pas ?
Non, pas encore. Non, ce serait trop facile sinon. C'est là où il va commencer à partir au Brésil. Il va aller travailler même pour le musée des Beaux-Arts de Sao Paulo. Il va peindre, il va faire de la sculpture, il va créer des céramiques. Il va trouver ce style aussi, sa patte. Il se libère et toujours, il voyage.
Ça lui reprend.
Toujours. Il a la bougeotte constamment. Il va aller visiter l'Amérique du Sud, il va aller en Argentine, au Paraguay, il va aller jusqu'à la Terre de Feu. Et à chaque fois, il va écouter les hommes qui rencontrent, les mythologies, toutes les histoires qu'on lui raconte le soir. Il note tout ça et c'est comme ça qu'il commence à créer lui aussi un petit peu. Et il va commencer à gagner des prix, il va avoir une petite renommée.
Il prend des notes, il fait des dessins, il les montre. Il sculpte et il commence à gagner des prix. Mais est-ce qu'il revient en France ? Parce qu'il n'aurait pu jamais revenir, il était bien là-bas.
Oui, mais un jour il faut qu'il revienne quand même. La sagesse peut-être, on est en 55. En 55.
Il n'est pas tout jeune.
Non, il faut qu'il attende 60 ans pour s'installer en Mayenne, le retrouver aujourd'hui à Cossé-le-Vivien. Et c'est là où je vous invite à aller visiter sa maison des champs.
Alors, la maison des champs, ça m'a intrigué au début, je me suis dit pourquoi ça s'appelle comme ça. Alors, en ligne, Bruno Godivier, qui est le directeur du musée Robert Tatin. Bonjour Monsieur Godivier.
Bonjour.
Dites-moi, pourquoi ce musée s'appelle la Maison des Champs ?
Alors cette maison et ce musée, elle est en pleine campagne. On est à 2 km du bourg de Cossé-le-Vivien, dans la campagne mayennaise. On a vu sur les pommiers, les vaches, les moutons. et Robert Tatin avait justement choisi d'installer cette œuvre monumentale qu'il a réalisée en 21 ans dans cette campagne bocagère de la Mayenne et verdoyante.
Alors, vous diriez quoi ? C'est un artiste c'est un excentrique ou c'est un créateur qui mérite d'être mieux connu, et c'est le cas, j'espère.
Alors... Oui, certainement. En fait, c'est un artiste du XXe siècle. C'est-à-dire qu'il a une formation un petit peu académique au départ, notamment avec les Beaux-Arts de Paris. Donc, il sait travailler. Et puis, dans la deuxième moitié du XXe siècle, la période où se développe vraiment ce musée, c'est la pensée qui détermine l'œuvre finale. Il a une pensée, il imagine, il se dit « voilà, comment je peux l'exprimer au mieux ?»
Et ça ressemble à quoi une sculpture ? C'est grand comment ? C'est large comment ? Et la matière ?
Alors c'est du mortier de ciment. En fait, il a eu une grande carrière de céramiste. Il a eu notamment une reconnaissance internationale en Amérique du Sud. Il travaillait la terre. Et ses sculptures devenant de plus en plus volumineuses, il est passé au mortier qui lui a permis de conserver cette manière de modeler, de travailler avec les mains. Et puis ses sculptures, elles sont peintes surtout, puisque lui-même parlait de sculpter la couleur.
Oui, c'est ça. Parce que Gavin m'a expliqué il y a un instant qu'il était aussi peint. Mais est-ce qu'il avait l'intention d'en faire juste un musée pour montrer à ses concitoyens, ou il avait l'intention de les vendre ?
Alors, ces sculptures, elles ont été faites sur place et elles sont inamovibles.
D'accord.
Oui, absolument. En fait, c'est une sculpture monumentale. Il faut imaginer qu'on entre à l'intérieur d'une sculpture. Il l'a réalisée en 21 ans et c'est un peu l'aboutissement
de tous ces voyages,
de toutes ces recherches. Bien entendu, on a un chemin avec 19 statues, mais qui mesurent de 2,50 m à 4,50 m de haut. Et puis, on a un ensemble architectural. Et à l'intérieur de cet ensemble, on a aussi des salles avec des peintures, avec des céramiques, avec des mosaïques, avec des dessins. dessin, des lithographies. C'est un artiste qui était vraiment très prolifique.
Et assez unique. Juste une question qui m'a intrigué, parce que j'ai regardé des images, il y en a quelques-unes, ils font un peu peur, hein, parfois, on peut y aller. Vous habitez là, vous ?
Alors, je n'habite pas sur place, j'habite à quelques kilomètres, mais nous recevons des familles avec des enfants, des papis, des mamies, et ça se passe très bien. En fait, je crois qu'il faut vraiment être dans l'œuvre pour la découvrir. C'est vrai que c'est toujours un petit peu difficile par des images extérieures, mais c'est une œuvre qui est quand même très optimiste, en fait. C'est un regard très optimiste sur l'humanité, sur l'idée qu'on vit tous ensemble, et ça touche à peu près tout le monde, je crois.
Bruno, il faut un peu de temps pour visiter tout ça, quoi.
Alors, nous, on accompagne nos visiteurs pendant environ 3/4 d'heure, mais il faut compter au moins 2 heures, en moyenne 2 heures, je dirais.
Parfait.
Sur le site. Certains y restent toute la journée. Hein. On a aussi 6 hectares de jardin, puisqu'on a un jardin qui a été imaginé
par
l'artiste.
Déplacez-vous, il y a de quoi faire, il y a de quoi regarder. C'est ça qui nous intéressait ici à Europe 1 dans cette émission. Merci Bruno, à bientôt. Merci. J'espère qu'on va pouvoir vous envoyer des visiteurs.
Merci à vous et n'hésitez pas à venir découvrir le musée, effectivement.
Avec plaisir. Au revoir. Alors, Gavin, est-ce que vous avez un endroit tout aussi insolite pour dormir pas loin ? Parce que là, on dit allez-y, et puis on reste sur place. Pourquoi pas ? On déjeune, et puis on dîne.
Exactement.
Et on dort.
Et on peut dormir dans un endroit tout aussi stupéfiant. Ça s'appelle Ecologia. C'est à Louvernay. On est à 30 km du musée Tatin. On est dans un endroit magnifique. C'est réalisé dans des anciennes carrières de chaux. Il y a 6 plans d'eau. En pleine verdure.
Ah oui, en plus.
Et on peut dormir sur des cabanes flottantes. Ça va vous plaire, William.
Ouais,
vous allez voir, vous êtes parti pour une petite croisière, mais immobile. Et vous allez pouvoir apprécier l'endroit.
Mais il y a un minimum de confort quand même. Bon, c'est pas 5 étoiles, d'accord, mais enfin, il y a un petit cabinet de toilette, un truc comme ça.
Carrément, carrément. Il y a des toilettes sèches. Ça aussi, c'est très tendance. Vous allez
genre
voir.
José Bové, quoi.
Un peu plus chic quand même. Faut pas plaisanter. Il y a aussi des cabanes que vous allez pouvoir apprécier sur le bord de l'eau, si vous avez un peu la peur d'aller.
Et on y va comment là
canoë et barque. Et vous avez aussi une initiation à la sarbacane, si vous voulez. Je vous inscris pour demain matin, si vous voulez.
Sarbacane, pourquoi faire ? Pour tuer les insectes la nuit ?
C'est ça, vous avez tout compris.
S'il y en a. Bref, pour se déconnecter. Redites-moi le nom.
Ecologia, c'est à Louvernay. Il faut compter environ 200 euros la nuit.
Ah, quand même !
Oui, quand même. Alors, c'est vraiment tout confort. Très sympa. On peut y aller en famille. Vous allez apprécier l'expérience.
Attendez, 200 euros, c'est la petite maison.
C'est la
donc
petite
on
maison.
Peut rentrer à 4 là-dedans.
On peut rentrer à 4 là-dedans, il n'y a pas de souci. Il y a aussi des cabanes dans les arbres, il y a aussi une chambre dans une ancienne poudrière. Bref, en gros, Ecologia, on peut dire que c'est canon.
Toujours aussi rigolo.
Oui, j'avais essayé.
Quand vous rencontrez la population partout en France, c'est le marrant, ils vont dire ça. C'est le
ça,
marrant d'Europe 1.
Voilà, ma réputation est faite.
Europe 1, 15h-16h, samedi en France. William Lémergie.
Alors cette émission va vous permettre de découvrir les sites les plus originaux, les plus insolites, les plus beaux aussi, mais hélas les plus inconnus, c'est pour ça qu'on est là. Alors répartis sur l'ensemble du territoire, chacun y aura droit. Après un étrange et magnifique musée tout à l'heure, c'était en Mayenne, voici maintenant en Bretagne, un ensemble architectural conçu comme c'est un petit circuit de ce qu'on appelle les enclos paroissiaux. Alors, là, quand je dis enclos paroissial ou par les enclos paroissiaux, vous dites c'est quoi ça ? J'ai entendu votre question et je la pose maintenant à Gavin Clemente Ruiz, qui est notre enquêteur ici pour cette émission, enquêteur compulsif, mais il se soigne. Il sait tout sur ces sites qui sont méconnus et qui méritent largement votre attention, je vous le promets. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un enclos paroissial, Gavin ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'était à l'époque, non ?
Exactement. Qu'est-ce que c'est ? L'enclos, il porte bien son nom. Il s'agit d'une clôture, tout simplement, autour de la paroisse, le plou, comme on dit en breton, qui permettait de mettre les tombes à l'abri des bêtes.
Le quoi ?
Le plou.
Le plou.
Souvent, vous avez les noms des villes en Bretagne qui commencent par plou, quelque chose. C'est le nom de la paroisse, ça veut dire paroisse de quelque chose.
Plougastel, par exemple.
Exactement, ça vient de là. Pas mal, hein ?
Ah, d'accord.
Et donc, les enclos paroissiaux, ils étaient protégés avec cette barrière, on va dire, pierre. Mais en Bretagne, les enclos paroissiaux, ils ont une valeur supplémentaire. Ce sont de véritables œuvres d'art avec un ensemble très codifié.
Mais il n'y a qu'en Bretagne que ça existe, ça ?
Alors non, il y en a d'autres ailleurs. Il y en a en Normandie, notamment. Mais c'est en Bretagne qu'ils sont les plus travaillés.
Et il y en a beaucoup ?
Une centaine environ. Et surtout dans le Finistère Nord.
Bon, alors maintenant, qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur de l'enclos paroissial ? Qu'est-ce qu'on y trouvait à l'époque ?
Eh bien, au milieu, il y a l'église au centre de l'enclos avec le cimetière. Mais il y a une superbe porte d'accès, souvent en forme d'arc de triomphe.
Rien que ça.
Bah oui, quand même, hein, on est en Bretagne. Et il y a le calvaire et il y a l'ossuaire qui sont au fur et à mesure alors, et du temps devenus de vrais...
Ça existe depuis quand, là, ces enclos paroissiaux ?
Eh bah, c'est à partir du Moyen-Âge, à peu près, qu'on a commencé à les construire. Mm-hmm. Ce sont les paroissiens qui finançaient les enclos de leur paroisse.
Bon,
et ouais, exactement. Ils voulaient avoir le plus bel enclos, tout simplement.
Oui, non, alors c'est le clergé qui demandait aux habitants du village, dit non, il faut nous verser une petite dîme, là.
Exactement, ah ouais, c'est ça, c'est grâce au commerce du lin, au commerce des draps, des toiles, et aussi au tannage des peaux, on s'est enrichi, et donc on a enrichi la paroisse avec.
Oui, mais le fait d'avoir un petit peu plus de sous, est-ce que ça a changé quelque chose pour la décoration de l'enclos, qui est au départ, c'était juste des parpaings, quoi.
Exactement, et au fur et à mesure, les calvaires ne sont plus de simples calvaires, les croix ne sont plus de simples croix, tout est beaucoup plus travaillé, les détails s'enrichissent, il y a des figures humaines, il y a des détails un peu plus fantastiques, mm-hmm. Il y a des fleurs qui apparaissent comme ça, au détour d'un calvaire. On fait venir dans le Finistère les meilleurs artisans d'Europe pour embellir l'église. Il y a des facteurs d'orgue anglais qui vont se retrouver là. Il y a des copistes flamands qui vont venir travailler. Et ces enclos deviennent alors de véritables œuvres d'art qu'il faut aujourd'hui recélébrer. William.
Bien sûr. Et est-ce que ces enclos se ressemblaient de village en village ou alors c'était, il y avait une sorte de concours, quoi.
Eh ben c'est ça que j'adore, c'est que chaque village a voulu avoir le plus bel enclos et donc il y a une espèce de compétition. Exactement. Et on voulait avoir le plus bel enclos, donc on se faisait une petite compétition. Qui aurait le meilleur artisan pour venir travailler
chez
soi ?
C'est bien parce que c'est l'âge d'or de cette architecture-là.
C'est
hein.
ça. Bon. Et ensuite, au XVIIIe siècle, il y a eu les crises économiques, il y a eu les différentes taxes fixées par l'État, notamment pour l'exportation. Il y a eu la Révolution, c'est la fin des richesses, la fin du développement des enclos. Mais les paroissiens ont gardé ces œuvres qui étaient parfois vouées à la disparition. Ils les ont gardées, ils les ont cachées dans les paroisses. Et c'est comme ça qu'on a pu voir qu'ils étaient très travaillés, qu'ils étaient surtout très colorés. C'était des œuvres très décorées.
Colorées,
exactement. Ouais. On les peignait, pierre, le bois, exactement.
On peignait la paille, mais il fallait qu'elle tienne la peinture, donc c'est pas rien ça.
Et là, c'est pour ça qu'on a pu voir, grâce à toutes ces œuvres conservées, qu'elles avaient été peintes.
Vous en avez un préféré, là ?
Oui, Guy Millot, c'est sans doute...
Ah oui, Guy Millot, j'ai ce nom-là.
Et c'est sans doute l'un des plus beaux, alors je ne veux pas dire le plus beau, sinon je vais m'attirer les foudres des Bretons, mais c'est sans doute un des plus beaux enclos.
Écoutez, je veux dire, ça tombe bien, parce que là, au téléphone, Morgane Lebaquer, qui est responsable du centre d'interprétation des enclos paroissiaux, s'il vous plaît, qui se trouve où ça ? À Guy Millot. Bonjour, madame.
Bonjour.
Pourquoi est-ce qu'il a fallu un centre d'interprétation, puisque ça s'appelle comme ça, de ces enclos ? Ça veut dire qu'on risquait de ne pas comprendre ce qu'il voulait dire et qu'il a fallu interpréter ?
Tout à fait. En fait, les enclos paroissiaux, c'est quand même bien connu. Il y a le circuit des enclos paroissiaux, il y a le bar de l'enclos paroissial. C'est tout un nom un peu marketing qui est bien connu par les habitants et les touristes.
Aujourd'hui
Aujourd'hui, et puis quand on se penche un peu sur l'histoire, on sait à peu près ce que c'est, mais il y a plein de choses à découvrir et à comprendre en fait dans la société du XVIe et XVIIe siècle qui a pu permettre la compréhension.
Alors c'est intéressant parce qu'on peut comprendre tout cela, cette histoire-là, uniquement en les regardant, quoi. Il y a tout dessus. C'est comme un peu... Ah oui.
Ce qu'on voit, c'est que c'est un art du décor, donc de l'architecture, c'est assez monumental.
Oui.
Donc c'est quelque chose qui un peu sert à comprendre la religion à l'époque. On est après le Concile de Trente, donc il y a une réforme catholique et on va un peu expliquer la religion par l'image. Hein. Souvent, c'est comparé à des bandes dessinées, tout ce qui est calvaire et retable décoré à l'intérieur des églises et des enclos paroissiaux. Mais là, au centre d'interprétation à Guy Millot, c'est l'interprétation justement et la compréhension de cette société des 16e et 17e siècle.
Ah, d'accord.
Donc je vous avais parlé du lin notamment, qui a permis de cette richesse-là. Il y avait aussi des tanneries, des foires. Et donc comment cette société était organisée au sein de cette paroisse, les architectes, etc.
Juste pour nos amis auditeurs qui habitent la région ou même un peu plus loin qui seraient intéressés, quand on y vient, on peut faire un circuit avec plusieurs enclos, mais ça prend quoi une journée, ça suffit ou...
Alors en une journée, vous pouvez faire 3 ou 4 enclos paroissiaux.
Parfait.
Il y en a beaucoup plus que ça.
Oui,
donc l'idéal, c'est de prévoir plusieurs journées.
Et voilà, donc on peut rester un week-end. Bonne idée.
Voilà, exactement. Bon, on va en démarrant de 10 millions pour bien comprendre
les
enclos paroissiaux.
Bien sûr qu'on démarrera chez vous. Non, mais sans blague, bien sûr, chez vous. Merci beaucoup, madame. On va tâcher
de
vous envoyer.
Au revoir.
On va tâcher de vous envoyer des visiteurs. On peut, Gavins, on peut dormir dans le coin?
Oui, il y a des chambres d'hôtes absolument géniales, superbes. La chambre d'hôte L'Apothéis, par exemple, à Locquéguinère-Saint-Égonnec. C'est une belle maison traditionnelle avec L'Apothéis. C'est quoi? C'était la belle avancée en pierre de la maison traditionnelle. Et vous retrouverez la Christine, d'accord, qui est une Lyonnaise qui est tombée amoureuse des lieux. Elle va vous faire un petit déjeuner pantagruélique, William. Vous allez adorer.
Europe 1, 15h-16h, samedi en France. William Lémergie.
Le troisième site que l'on vous propose aujourd'hui dans cette émission Samedi en France rentre dans la catégorie des sites que l'on a appelé d'apprentissage. Autrement dit, on vous propose d'aller visiter le cœur d'un lieu qui peut être celui, par exemple, d'une usine désaffectée. Ça arrivera dans les semaines qui viennent. Et usine réhabilitée, vous verrez comment. Ou alors, comme c'est le cas maintenant, c'est un lieu naturel. C'est un volcan à ciel ouvert. Il n'y en a pas tant que ça. Nous sommes évidemment en Auvergne. Gavins Clemente Ruiz, notre guide randonneur permanent dans cette émission, on va vous en dire plus. Alors d'abord, comment s'appelle ce volcan et qu'est-ce qu'il a de particulier?
Alors ce volcan, William, il s'appelle le volcan de l'MTJ. On est à 16 km à l'ouest de Clermont-Ferrand. On est en plein cœur de la chaîne des Puys, qui est classée à l'UNESCO. Mmh. Et on arrive sur un site assez spectaculaire et vraiment unique.
Oui, mais la chaîne des Puys, on sait que ça existe. Donc on voit très bien le cône, le volcan avec son col là-bas tout le temps. Pourquoi celui-là, il est spectaculaire?
Eh bien, il n'est pas vraiment comme ça, mon volcan aujourd'hui. Vous allez voir, on va pouvoir rentrer au cœur d'un vrai volcan à ciel ouvert. C'est ça qui est extraordinaire.
Non, parce que si je me souviens bien de mes lectures de scolaires, on se contente de les regarder de loin, on s'approche un peu parfois. Mais comment ça se passe? Parce que vous dites, on s'approche, on peut le visiter et on descend. Ah bon, mais il a quel âge, lui?
Eh ben, sur la carte d'identité, on dit que le volcan du LMTJ a environ 30 000 ans. Sa dernière éruption date d'il y a 8000 ans. Donc
c'est vieux pour un volcan, ça, non?
Bah pas tant que ça. Non, pas tant que ça, mais bon, ça va. Pas trop de soucis si vous y allez. N'ayez crainte, je pense qu'il ne va pas tout de suite rougir. Son signe particulier...
Bah, il a commencé à faire son boulot comme moi à la radio à l'époque.
Oh, je ne me serais pas permis, mais c'est vous qui l'avez dit. Signe particulier, on dit que c'est un volcan de type strombolien.
C'est quoi ça?
Ça signifie que son volcan, son magma, au moment de son éruption, était fluide. Bon, c'est toujours bon à savoir si vous voulez briller.
C'est-à-dire liquide.
Exactement, ça coulait.
Et il n'y a pas beaucoup de cailloux.
Ça sortait par petite intermittence. Il y a du caillou et il y a de la lave.
Juste, l'MTJ, il faut savoir, ça s'écrit L-E-M-P-T-E-G-Y.
Exactement.
D'accord. Bon.
Ça sonne un peu comme l'MTJ.
Oui,
c'est un vrai volcan, mon cher.
Bon, un volcan, en général, ça ne sert pas à grand-chose. Alors, celui-là, vous m'avez dit qu'il a servi à quoi? Il a servi à quelque chose.
Eh ben exactement, c'est ça qui est intéressant. C'est qu'après la Seconde Guerre mondiale, le volcan du LMTJ a été choisi pour en extraire ses scories volcaniques.
C'est-à-dire?
Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a utilisé sa roche.
Ah, ben il y avait donc, c'était fluide, mais il y avait quand même des cailloux.
Alors,
qui partaient.
Entre deux, il a un peu durci aussi.
Ah, ouais, et donc, ah oui, c'est ça.
Et voilà, on a utilisé sa puzzolane, c'est
Qu'est-ce
ça
que c'est, puzzolane?
Alors la puzzolane, en fait, eh ben, on s'en sert pour faire, par exemple, des parpaings. Ça a servi pour reconstruire
la
Normandie.
Les cailloux qui ont été propulsés, on les a récupérés.
On les a broyés, on en a fait des parpaings pour aller reconstruire la Normandie, notamment après la Seconde Guerre mondiale.
Ah bon?
Eh oui, eh oui.
La Normandie qui avait été bombardée.
Il y a un petit peu d'Auvergne au cœur de la Normandie.
Ah, donc on réparait ça avec des parpaings qui venaient de là.
Et la puzzolane, il y en a un peu partout. Vous en avez dans les revêtements des routes, vous en avez dans la litière de votre chat, tiens aussi. Il y en a dans la fosse septique si vous le souhaitez.
Ça alors?
Ouais, c'est fou.
La puzzolane. Donc, c'est-à-dire, imaginons le volcan, on l'a évidé comme on évide une tomate si on veut faire de la tomate farcie, et puis on a pris les bouts de parpaing et on les a taillés.
Alors, c'était de la roche, on l'a d'abord broyé, et ensuite on en a formé des parpaings. Et en gros, on a mis le volcan à nu grâce à l'exploitation de ces roches. Ah. Aujourd'hui, l'exploitation.
Et oui, il n'y a plus rien dedans, quoi.
C'est fini,
ça.
Exactement, il n'y a plus rien dedans. La carrière volcanique, on a arrêté de l'exploiter, et maintenant, elle est rien qu'à nous, visiteurs. On a 11 paliers d'exploitation à ciel ouvert sur plus de 10 hectares. Et
on peut se promener sur les paliers?
Eh ben voilà, c'est là qu'on peut aller se promener. Je vous propose deux façons de visiter l'intérieur du volcan. Soit le petit train, 1h30 de visite.
Sur un des paliers, là.
Et vous tournez tout doucement.
Et ça descend.
Et vous allez au cœur du volcan.
Ouais.
Ça, c'est assez magique. Soit à pied. Alors, vous ne faites pas tout le tour du volcan à pied, mais vous êtes un peu plus au cœur. Et dans tous les cas, il y a un animateur qui est là pour vous donner des informations.
Ouais.
Alors, moi, j'ai fait le petit train, pour tout vous dire. J'ai adoré. J'avais l'animateur qui était vraiment hyper pro, vraiment calé et drôle. Et il nous a appris plein de choses sur les cheminées, sur les bombes volcaniques, sur les coulées de lave. Ça plaît vraiment aux petits comme aux grands. Et puis, on peut ramasser ramasser des petits bouts de roche comme ça.
Ah bah non.
On en a plein les poches.
Bah on n'a pas le droit de ramasser des coquillages sur la plage.
Eh bah ben là, si, on peut ramasser des bouts de roche de ce volcan du LMTJ. D'ailleurs, mes enfants, message personnel, si vous pouviez ranger votre chambre, parce qu'il y en a un peu partout, là, vous en avez mis partout par terre. Okay. Bref, c'est vraiment fascinant et on peut pénétrer
bon,
au cœur de la
matière. Juste un mot pour dire le volcan, il appartient à l'État ou à une région
Eh ben non, pas du tout. C'est là que c'est intéressant, c'est que la belle histoire continue. Ah. C'est la famille Montel qui a exploité le site après-guerre et qui le met aujourd'hui si bien en valeur.
Oui, parce que ce qui est intéressant aussi dans ce site dont on va vous parler chaque samedi après-midi sur Europe 1, c'est qu'on va vous les décrire pour que vous y alliez, mais aussi il y a toujours une histoire qui va avec la preuve. On a au téléphone Philippe Montel. Bonjour Monsieur Montel.
Oui, bonjour.
Comment vous est venue cette idée de faire visiter ce qui est désormais votre volcan ?
Alors l'idée, en fait, il ne faut pas qu'on enlève ça, c'est l'idée vient de mon père Jean-Louis, dans les années 70,
oui.
Puisqu'il y a énormément de scientifiques qui venaient dans ce volcan pour l'étudier. Mmh. On a même eu la chance d'avoir un homme qui a marché sur la Lune, qui est venu nous voir.
Oh.
Oui, de Apollo 17, Monsieur Schmidt, un scientifique.
Très bien.
Parce que ce volcan, on l'a énormément étudié, et ça continue encore aujourd'hui. Il faut savoir que le volcan LMTJ est connu dans le monde entier par les scientifiques.
Alors oui, pas mais par pas assez par les Français, je trouve. Parce que moi j'ai découvert ça il y a quelques semaines, et j'ai vu les photos, c'est remarquable, et en plus le témoignage de Gavitz. Vous avez créé un parcours, de quoi s'agit-il quand on fait tout ce parcours-là?
Alors, il s'agit d'une chose qui est très très simple, qui est vraiment basée sur la relation de l'homme et des volcans,
oui.
Puisque grâce à toutes ces recherches qui ont été faites par les scientifiques, mon père a pris vraiment conscience qu'il y avait beaucoup de choses à l'intérieur du volcan. Et depuis le 10 juillet 1992, donc on fêtera nos 30 ans l'année prochaine,
oui.
Eh bien, on emmène nos visiteurs parcourir cet endroit qui est vraiment magique et qu'on ne voit nulle part ailleurs.
Oui, c'est ça. Vous avez raison, Monsieur Montel, il est unique. On m'a dit qu'il y avait un petit train, mais c'est un petit train fou comme dans les parcs d'attractions où il roule doucement.
Ah non, celui-ci il roule doucement. les deux derniers trains, ils sont électriques, donc ouais. on est vraiment dans la protection du volcan,
oui.
dans la protection du volcan, dans le développement durable.
Très
et
bien.
On va avec ce train ou à pied vraiment à l'intérieur du volcan.
Mm-hmm.
Imaginez-vous qu'on est 80 mètres sous le cratère du volcan.
Ah, alors, c'est bien ça, on est à l'intérieur, quoi.
Oui, alors ça peut paraître profond, mais sachez quand même que le magma qui est encore en fusion sous nos pieds dans les volcans de la chaîne des Puys, il se trouve à 13 ou 15 km de profondeur.
Ouf.
Donc on est vraiment que sur le
c'est
minime par rapport à l'écorce terrestre.
Bien sûr, mais c'est suffisant pour qu'on ait une impression de profondeur, quoi, que c'est suffisant. Bon, merci pour avoir présenté succinctement tout ce que vous avez fait, vous et votre père. Bravo, on va tâcher de vous envoyer des visiteurs, Monsieur Montel. À bientôt, au revoir.
Eh ben, merci bien, bonne journée.
Je vous en prie, au revoir. Alors, c'est très original, ça, Gabine, c'est ciel ouvert. Mais ça coûte combien, la visite, là ?
Il faut compter 11,80 pour la visite à pied et 15,80 pour la visite avec le petit train. Et inclus dedans le musée pour tout comprendre et les deux attractions incluses à la fin.
Comme on va le faire à chaque fois dans cette émission, le samedi sur Europe 1, samedi en France, on vous donne des adresses aussi pour l'hébergement, pour la restauration. On peut aller où ?
Eh ben moi, je vous conseille d'aller juste à côté, à Royal, ancienne ville thermale, dans les chalets du camping Utopia. Là, vous avez une vue splendide sur la région. Il y a la piscine chauffée, c'est toujours intéressant. Il y a un tennis, si vous le souhaitez. Il y a un petit resto. Et si vous êtes en famille, c'est l'idéal. Vous prenez un petit chalet. Ça coûte entre 75-100 euros la nuit pour 5 personnes.
Ah, c'est bien ça.
Et sinon, dans un autre registre,
oui.
Vous avez une chambre d'hôte. Alors là, c'est le Bois Basalte. C'est à Manza. Là, c'est une maison qui a été réalisée, des chambres d'hôtes qui ont été réalisées par 4 architectes. C'est hyper moderne. C'est presque futuriste. C'est tout en bois. 900 mètres d'altitude. Là, c'est 100 euros la nuit pour 2 personnes.
Très bien. Merci. Si vous voulez en savoir plus, consultez nos réseaux sociaux ou alors renseignez-vous auprès de europe1.fr.
Samedi en France sur Europe 1.
Chaque samedi dans cette émission, il y aura une personnalité qui vous parlera de ses souvenirs d'enfance. Alors vous allez entendre parce que chacun d'entre nous, ou presque, hein, des artistes qui ont dans leur mémoire un coin de France, parfois depuis l'enfance, où ils ont vécu des moments inoubliables. D'autres les ont découverts tardivement, mais oui, mais les quittent plus. C'est intéressant aussi pour vous qui allez visiter ces endroits-là. Ces artistes sont bien souvent des ambassadeurs, d'excellents ambassadeurs de cette région. Et avec nous, Daniel Moreau, qui se chargera de les interviewer. Et aujourd'hui, on va découvrir le Cap Ferré de Pascal Obispo. Alors, j'ai remarqué, Daniel, que les personnalités connues hésitent assez souvent à parler de leur vie privée. Mais là, quand on leur demande de parler de la région de l'enfance, ça marche à tous les coups. Vous l'avez déjà fait pour la presse écrite, d'ailleurs.
Exactement, vous avez raison. En fait, c'est la seule histoire d'amour dont ils aiment parler, parce que souvent, ils sont frileux pour en parler, et c'est respectable. Oui. Là, c'est parce que, je pense, ils parlent de... Par exemple, pour Pascal Obispo, ils ne parlent pas de Pascal Obispo, l'artiste. Ils parlent du petit Pascal. Oui. Et c'est toujours agréable de se souvenir de cette enfance qui est normalement le temps de l'insouciance, des petits bonheurs simples.
Et puis, ces paysages-là dont il va nous parler, qui n'ont pas beaucoup changé depuis cette époque-là. Je vous propose d'entendre Pascal au micro de Daniel Moreau.
Bonjour Pascal.
Bonjour Daniel.
Comment avez-vous découvert le Cap Ferré ? Plantez-nous le décor.
J'ai découvert le Cap Ferré grâce à mon oncle qui nous a quittés il y a quelques semaines, malheureusement, et avec toute ma famille et donc mes trois cousins, ses trois fils. Nous allions en vacances dans cette maison de Petit Piquet, qui est une commune du bassin d'Arcachon. J'ai fait mes premiers pas sur le sable du bassin d'Arcachon à cette époque-là, donc j'avais 5-6 ans. J'ai appris à nager là-bas, j'ai fait pour la première fois du bateau, j'étais au Club Mickey aussi. J'ai aussi chanté au Club Mickey, je faisais des concours des radio-crochets, c'était assez amusant. En tout cas, j'ai découvert ça en 70, donc ça fait plus de 50 ans. Il y avait évidemment moins de monde, ça devient un peu compliqué cette surpopulation. Mais qui dit surpopulation dit engouement et beauté des lieux, évidemment.
Voilà, j'allais dire, s'il y a tant de monde, c'est que c'est très beau. Alors, je ferme les yeux, moi je ne connais pas le Cap Ferré. Servez-moi de guide, qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on découvre, les parfums, les ambiances, j'ai envie d'y être, quoi.
En fait, dans l'idée, quand vous arrivez, on va dire, la première commune, ça s'appelle Claouet. Dès que vous arrivez à Claouet, donc vous avez... un village très sympathique, et juste au bout de cette route, vous pouvez, pour la première fois depuis Bordeaux, voir le bassin. Donc vous avez la plage, vous avez la dune du Pilat dans le fond, vous voyez les piquets, des parcs à huîtres. Donc en fait, c'est un virage qui vous permet, en arrivant, de découvrir, déjà si vous êtes à marée haute ou marée basse, vous croisez des pêcheurs, des ostréiculteurs, c'est absolument... magnifique, c'est complètement typique. Et quand il fait beau, c'est fabuleux. Donc en fait, quand vous empruntez cette route, vous traversez des communes, beaucoup de communes. Claouet, Les Jacquets, Petit Piquet, Grand Piquet. Après, vous avez le Canon. Après, vous avez l'Herbe. Ensuite, vous arrivez au port de la Vigne, parce qu'il y a un petit port aussi. C'est le port qui est de ce côté, puisque de l'autre côté, vous avez le port d'Arcachon, donc en face. Il faut traverser, évidemment, avec des bateaux qui font ça toute l'année, des bateaux de touristes, ou même avec votre propre bateau, vous pouvez aller en place. Bon, mais Arcachon, c'est plus une ville qui joue, c'est un petit peu, évidemment, ce que l'on voit, nous, de notre côté, c'est-à-dire le Moulot et la dune du Pilat. C'est de la plus haute dune de sable d'Europe. C'est quelque chose à voir, qui est juste en face du banc d'Arguin, à l'entrée des passes de l'océan Atlantique. Donc nous, on continue notre chemin et on va et on arrive après le port de la Vigne, et bien on arrive au Cap Ferré.
J'ai envie de zoomer sur un endroit très particulier et très cher à votre cœur, l'île aux oiseaux, que vous avez même chanté dans un de vos premiers succès, Tombé pour elle. Alors, l'île aux oiseaux, ça ressemble à quoi ? Qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette île aux oiseaux ?
Alors, je vais d'abord vous amener à la pointe, parce que quand on va à la pointe, on arrive chez mes amis, chez Hortense, qui est un restaurant d'où vous pouvez voir la dune du Pilat. Voilà, tenu par mon ami Bernadette et ses fils Olivier et François. Là, vous mangez, vous dégustez des moules avec leur recette spéciale. Alors, pour parler de l'île aux oiseaux, écoutez, c'est une île de pêcheurs. Voilà, on l'appelle l'île aux oiseaux, évidemment, parce qu'il y a beaucoup de poissons, beaucoup de pêcheurs. Et les touristes viennent se prendre en photo, passer un moment là. C'est un petit peu comme la Tour Eiffel. Comme je le dis dans ma chanson « Tomber pour elle », c'est un peu la Tour Eiffel d'ici. Je pense que c'est l'endroit où je finirai mes jours ici. Ça c'est sûr, si ce n'est pas recouvert avant. Mais ça, il va falloir que les personnes qui s'occupent de tout ça jettent un œil sur l'érosion, parce que ça devient un peu problématique.
Le message est passé, Pascal, et surtout, je suis désolée, mais je crois qu'il va y avoir encore plus de monde parce que vous nous en avez très joliment parlé. Merci beaucoup de nous avoir fait partager cette passion.
Ben, merci beaucoup, merci à vous, Daniel.
Merci Pascal. Non mais il a raison, et Daniel aussi. Hein. C'est-à-dire on va envoyer le plus possible de visiteurs, mais prenez votre temps, oui. Hein, mesdames, messieurs. Allez-y pas tous en été, parce que c'est très joli en hiver aussi. Merci beaucoup Daniel. Alors il y a une chanson dont vous avez parlé, hein, qui illustre parfaitement son propos, c'est « L'île aux oiseaux ». En voici quelques notes.
Au-dessus des marais, je ne l'amour à perpétuité. Sur mer, arcan ferré, pointe chevaux de mer, l'été, arcasson piquet, effraie les liens, les glaces sur la jetée, pourrait bien me manquer. Je suis tombée pour elle.
Il ne parle pas dans sa chanson, Pascal, du papa de Sophie d'avant, il me semble,
oui, vous avez travaillé dans
qui s'est occupé
de la protection des oiseaux. Parce qu'en fait, l'île aux oiseaux, c'est vraiment l'aire de repos de ces oiseaux avant la migration.
Voilà, oui,
exactement.
Avant de partir.
Donc, c'est un endroit magnifique. Et avec les cabanes tchanquées, qui sont comme
bien
des
sûr.
Cabanes sur pilotis où on peut dormir, certaines. Donc,
voilà. Merci, Daniel. À samedi prochain.
Europe 1, 15h-16h, samedi en France.
William Lémergie.
Et dans cette émission, nous vous proposons de découvrir des sites originaux, pas très connus, mais à notre avis toujours passionnants et qui méritent d'être visités et dont il y a très très peu d'exemples en France. Cette première émission, vous la prouvez, j'espère, si vous êtes là depuis le début. Alors, celui dont on va parler maintenant, je parle du site, avec le maître randonneur qui sévit habituellement au guide du routard, Gavin Skilementerwies. Alors, ce site-là, on appelle ça une expérience en plein air. On tâchera de vous en proposer au moins une à chaque fois. Expérience en plein air, c'est assez tendance en ce moment. Oui, c'est la mode. Mais ce n'est pas ça qui a retenu mon attention. Parce que moi, je trouve ça beau à regarder. Je trouve ça très sain, en plus, quand on le fait. Et puis, c'est très original. Alors, ça se passe où et on y fait quoi, Gavin ?
Eh bien, William, je vous propose, comme on retombe en enfance, de retomber en nature. On va partir dans le massif des Vosges, dans l'ancienne Lorraine, vous l'avez dit, dans le Grand Est. Et plus précisément, à Angomont, c'est dans le département de la Meurthe-et-Moselle, à 40 minutes à l'est de Lunéville et à 1h30 à l'ouest de Strasbourg. C'est précis. On est en pleine forêt. Et là, William, il faut que vous sachiez la grande tendance. Vous l'avez dit, surtout, ce sont les bains de forêt.
Comment ça, bains de forêt ? Ça fait chic, ça, de dire ça,
c'est
mais
bon,
on ne sait pas bien ce que ça recoupe. Alors, moi, je connais les bains de mer, je connais les bains de boue.
Les bains de boue, oui.
Et les bains de forêt, alors c'est quoi ?
Eh ben, les bains de forêt, ça veut dire qu'on va se reconnecter avec la nature. Avec les confinements successifs, on a tous eu envie d'aller marcher un peu à l'air, d'aller partir comme ça en forêt. Et les forêts sont des terrains merveilleux pour souffler, pour se ressourcer, pour reprendre des forces. Et les bains de forêt, ça vous redonne le rythme. On s'adapte au rythme de la nature. C'est la nature qui vous permet de vous retrouver à un rythme naturel, j'ai envie de dire. Et c'est pas mal.
Non, bien sûr.
Ça vous tente ?
Alors, aujourd'hui, dans Samedi en France, comme vous ne faites rien comme tout le monde, quand vous baladez, vous, c'est pas une simple balade. Parce que ça, après tout, ils n'ont pas besoin d'une émission de radio, même sur Europe 1, pour aller là-bas. Une balade en forêt, c'est bien. Mais qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette balade ?
Eh bien là, on ne va pas aller en forêt, on va aller au-dessus de la forêt.
Au-dessus de la forêt. Est-ce qu'on prend une échelle, on prend un hélico, on fait quoi ?
Presque, presque. On va monter à bord d'un arbre. C'est tout ce que je vous propose. c'est pas mal, ça. Non, c'est Frédéric Collin d'Équilibre Access qui propose cette activité en pleine forêt d'Angomont, à la limite des Vosges. C'est votre guide pendant toute l'ascension. Alors, il vous propose une grimpe d'arbres. Ça, c'est le mot technique. Oui. Vous êtes alors attaché à votre harnais. Vous êtes au bord d'un arbre. Vous êtes au pied de l'arbre, tout d'un coup. Et là, avec l'arbre, il est préparé pour vous accueillir. C'est un peu comme de l'escalade. Et vous allez.
Ah bon, il sait que vous allez venir, quoi.
Presque. Oui. Vous allez l'embrasser. Vous allez tenir l'arbre dans vos bras au début. D'accord. Et ensuite, vous allez vous accrocher avec le harnais et avec la seule force de votre pied, vous allez pousser des petits coups et le harnais va vous monter tout doucement jusqu'au sommet de l'arbre.
Oui, mais la question, mais je vais la reposer à celui que je vais avoir au téléphone dans un instant. Il ne faut pas être un athlète olympique pour pouvoir faire ça, parce que sinon ça limite le nombre de visiteurs.
C'est possible pour tout le monde et Frédéric Collin est vraiment là pour le dire. Il offre cette possibilité de grimper au-dessus de l'arbre et de bivouaquer même au-dessus de l'arbre.
Ah bon, ben ça, il faut qu'il nous explique ça. Il est au téléphone. Bonjour Frédéric.
Oui, bonjour.
Alors c'est vous qui organisez ces grimpes d'arbres. Comment ça se passe concrètement? Je suis au pied de l'arbre, j'ai pas forcément 18 ans et des muscles partout. L'arbre devant moi, il est haut, quelle est sa taille? Comment est-ce que je suis équipé? Comment je monte tout seul ou je suis aidé? Allons-y.
Alors l'activité de grimpe d'arbre, elle est accessible vraiment à toute personne qui désire vivre une expérience avec les arbres et la forêt. Selon le public qu'on a en face de nous, la personne est autonome et puis elle se hisse toute seule dans l'arbre, comme Gavins nous l'a expliqué.
Ah oui, mais il ne m'a pas tout dit comment le coup des cordes, des poulies et tout ça. Alors, j'ai un harnais, hein.
Oui, vous avez donc un harnais, il y a une corde qui est préinstallée dans l'arbre. Mmh. Et c'est un petit peu, c'est le même système que les élagueurs, si vous voulez. Quand on pousse sur le pied, si vous voulez, on va pousser sur la corde vers le bas, mais en même temps, ça va nous tirer vers le haut.
Ah,
et au fur et à mesure, en répétant cette action, on va se hisser dans l'arbre.
D'accord. Donc la corde fait une boucle sous le pied, on appuie dessus et puis on grimpe. C'est assez facile, quoi.
Il y a comme une petite cordelette avec un nœud spécial qu'on appelle un nœud de Prusik qui va serrer la corde et prendre appui dessus. Et en même temps, vous aurez une autre petite cordelette qui, elle, va vous tenir à la corde. Et vous pourrez vous hisser comme ça.
Et ça dure combien de temps? Parce que l'arbre, il est haut de combien, l'arbre en question?
C'est variable selon le site où on est, selon l'activité. On peut, s'il y a des personnes qui se sentent pas trop à l'aise, on s'arrête à quelques mètres.
Ouais.
Et s'il y a des personnes qui sont très à l'aise, on peut monter jusque dans un arbre, jusque 10 mètres, 15 mètres, 20 mètres. Ça dépend la taille de l'arbre, ça dépend la volonté des personnes.
De ce que vous voulez faire, mais il n'y a aucune obligation. Imaginons qu'on a une envie de monter jusqu'en haut. Une fois qu'on est en haut, et qu'est-ce qui nous attend? Il y a une tente, il y a un endroit où on peut s'asseoir et éventuellement dormir?
Alors, il y a ce qu'on veut mettre en haut. Moi, je suis vraiment spécialisé dans l'immersion dans la forêt et dans la recollection à la nature. Et donc, moi, j'installe soit des hamacs, soit des tentes où on peut dormir à plusieurs, du coup, en famille ou entre amis.
Mais
individuellement dans des hamacs.
Frédéric, ça repose sur des branches, c'est stable.
Alors c'est accroché, ah oui, bien sûr, évidemment, c'est accroché donc sur sur le tronc de l'arbre, ou alors entre deux arbres, je tends des grands haubans comme ça, des cordes. Chaque corde, c'est de la corde résistante, ça tient plus de 2 tonnes. Et après sur ces haubans, j'accroche tous les accessoires que j'ai besoin, une table, une tente, tout ce qu'on veut. J'ai même accroché des gens qui faisaient du vélo en l'air.
Ah oui, bien sûr. Un frigo, un micro-ondes et une table basse. Qu'est-ce qu'on voit de là-haut? Le paysage, c'est quoi? C'est la canopée? On est vraiment tout en haut?
Alors, on est vraiment dans les branches. On est tout autour de nous. On peut voir toute la structure des arbres.
D'accord.
Ou alors sur d'autres sites. Moi, j'ai certains endroits où on est sur des arbres qui dépassent la forêt. Il y a plusieurs arbres qui sont plus grands.
Oui.
Et des fois, on est au-dessus de la forêt, quoi.
Juste une dernière chose rapidement pour si on veut bivouaquer là-haut, parce que c'est assez rigolo et inédit. Rassurez-moi, on est d'accord, si on bouge un peu la nuit, on ne risque absolument rien. Il faut que ceux qui nous écoutent soient rassurés d'ores et déjà. On est d'accord?
Bien évidemment, dès le moment où on quitte le sol, on reste connecté à son harnais en permanence, même quand on dort.
Voilà, il y a des gens de votre équipe qui sont là pour sécuriser tout ça.
Bien sûr, on est présent toute la nuit avec les gens. On dort au pied de l'arbre. S'il y a le moindre besoin, ils nous appellent. On descend et puis, on monte dans l'arbre, on voit ce qu'il y a, ou alors on les aide à descendre ou des choses comme ça. Il n'y a aucun souci. On est présent tout le temps.
Merci beaucoup, Frédéric. J'espère qu'on vous enverra des visiteurs prochainement. À bientôt. Plaisir. Au revoir. Alors, Gavitz, maintenant, ça coûte combien ça, cette balade verticale?
35 euros la demi-journée. Hein, c'est pas mal.
Non, c'est pas cher.
C'est pas cher. Et 50 euros si vous voulez passer la nuit là-haut. J'ai l'impression que vous avez vraiment envie d'y aller.
Mais on emmène son sandwich quand même.
Bah, on peut avoir un petit repas prévu si besoin.
Ah ouais,
mais le mieux, c'est quand même d'avoir ce qu'on veut sur soi si on a des choix particuliers. Mais le repas est compris normalement.
Bon, d'accord. On fait un récapitulatif pour ceux qui sont arrivés en cours de route. Mais je sais que samedi prochain, ils arriveront à 15h au début de cette émission. Alors, un rapide récapitulatif.
Eh bien, on est allé aujourd'hui visiter le musée insolite de Robert Tatin en Mayenne. On a fait un petit tour dans les enclos paroissiaux dans le Finistère. On est rentré au cœur du volcan, l'MTJ en Auvergne. Et on a gravi les arbres avec la grimpe d'arbre dans le massif des Vosges.
On terminera toujours par un livre, un film ou une expo qui nous a plu et qui nous donne un peu plus l'envie de partir sur les routes de France. Vous avez choisi un roman qui se passe dans les Corbières. D'abord les Corbières, rappelez-nous où ça se trouve et de quoi s'agit-il?
Alors les Corbières, c'est en Occitanie, dans les départements de l'Aude et des Pyrénées-Orientales. Et j'ai lu là le roman de Guillaume Cyre qui vient juste de sortir, Les Contreforts. C'est chez Calman Lévy, ça se passe dans la région des Corbières, donc, qui est la région natale de l'auteur. On rencontre une famille atypique, c'est les Testaceca, qui tentent de défendre un château en ruine. Ouais. Que l'administration a décidé de vendre. Ah. C'est une histoire de famille, les contreforts, c'est tendre, c'est enlevé. C'est un beau roman aussi sur le patrimoine en péril qui pose la question de l'entretien de ces lieux et des hommes et des femmes qui sont derrière pour s'en occuper.
Merci Gavitz, Clémenté Ruiz. Madame, Monsieur, c'était la première émission de Samedi en France. Vous retrouverez toutes les infos nécessaires à la visite de ces quatre sites que nous vous avons proposés aujourd'hui sur europe1.fr et sur les réseaux sociaux. Merci d'être resté en notre compagnie. À samedi prochain. Alors, samedi prochain, quatre autres sites dans quatre autres régions avec des activités et des lieux inédits pour la plupart d'entre nous. Merci à vous tous. Merci à Maryse Jacquet, Christophe Pierrot et Daniel Moreau. À samedi prochain. Merci. 15h, bon après-midi.